Nous sommes venus pour écouter le Seigneur.
Et nous allons lire juste un verset, puis on va prier.
Il est temps pour nous de pouvoir écouter ce que Dieu va nous parler au travers de son serviteur. 2 Timothée 3, 16. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Il faut que nous soyons équipés pour toute bonne œuvre. Il faut que nous soyons accomplis et équipés pour toute bonne œuvre. Et c'est le moment où le Seigneur voudrait nous parler. Je vous invite de pouvoir nous tenir debout parce que nous voulons à ce moment demander à Dieu de nous parler encore particulièrement. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui ici à Gomaville, mais je sais que tu as la soif que le Seigneur fasse quelque chose en toi, dans toi et pour toi. Tu as besoin que le Seigneur encore te rencontre aujourd'hui. Imagine-toi si nous pouvons passer tout ce temps ici et sortir comme nous sommes venus. Nous aurions perdu du temps. Mais je ne suis pas sûr que nous allons perdre réellement le temps. Parce que je sais que notre Seigneur est là. Et c'est un Dieu qui parle. Il parle. Il nous enseigne. Et qu'il lui plaise encore de t'ouvrir les oreilles pour pouvoir écouter le message qu'il voudrait te communiquer aujourd'hui au travers de son serviteur. Raison pour laquelle tu vas encore incliner ton cœur entre les mains du Seigneur pour lui demander, Seigneur, seulement parle-moi aujourd'hui. Et parle-moi aujourd'hui comme jamais. Tu seras en train de prier le moment que le serviteur du Seigneur va s'approcher de la chair, mais toi, tu seras en train de prier pour demander au Seigneur de te communiquer encore quelque chose de nouveau. Tu seras en train de prier, tu pries pendant une minute, et ces moments de prière d'une minute seront clôturés par la prière du serviteur de Dieu qui nous a envoyé aujourd'hui pour pouvoir nous parler de sa part. Au nom de Jésus, Seigneur, merci car tu es bon. Ta parole est inspirée pour pouvoir nous transformer, nous changer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous encore aujourd'hui. Tu l'as fait le dimanche, tu l'as fait le lundi, tu l'as fait le mardi. Nous sommes mercredi aujourd'hui, Seigneur, parle-nous encore d'une façon particulière. Comme la rosée du matin, renouvelle, Seigneur, encore, renouvelle encore cette rosée de ta parole, afin qu'elle nous arrose, afin qu'elle nous change. Chacun à la hauteur de sa soif. Toi qui nous dis, venez à moi, même sans argent, c'est gratuit. Seigneur, c'est gratuit, tu veux encore nous parler. Utilise ton serviteur d'une façon particulière, afin qu'il puisse proclamer ta parole avec audace, sans crainte et fidèlement, selon ce que tu lui as communiqué. Oh, pour le rétablissement et le redressement de ton peuple. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus.
Parce qu'il t'a plu que cet après-midi, nous soyons réunis en ces lieux, afin que nous puissions recevoir cette parole de vie, cette parole qui nous permet de grandir spirituellement et d'avancer dans notre marche avec toi. Seigneur, tu nous connais chacun. Tu connais, Seigneur Dieu, la vie de tout chacun parmi nous. Nous nous humilions devant toi et nous sollicitons ta grâce afin que tu acceptes de nous parler et de nous communiquer ta volonté. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux, nous qui avons la grâce, de nous retrouver cet après-midi en ces lieux, afin que nous puissions continuer notre enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e séance. C'est donc déjà le millier des 5 séminaires que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a déjà communiqué et nous le bénissons encore pour ce qu'il va nous communiquer. Cet après-midi, je vous invite de lire avec moi les textes de Matthieu chapitre 7. Nous revenons à Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 27. Ce sera là le texte de notre méditation de cet après-midi. Ou alors le texte sur lequel nous allons clôturer notre méditation de cet après-midi. Matthieu chapitre 7. Le verset 24 jusqu'au verset 27. Si nous avons trouvé le texte de Matthieu 7, 24, je vais conduire la lecture dans le nom de Jésus. Ainsi, tout homme qui attend les paroles que je viens de dire et le met à pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui attend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Parole du Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je nous rappelle que notre thème général est intitulé pour une église vivante et stable. Et nous sommes beaucoup plus en train d'attirer l'attention sur la responsabilité du disciple pour une église vivante et stable. Pendant cette quatrième séance, depuis que nous avons commencé à parler de ce thème, je me propose de nous rappeler que nous avons souligné que la vision de Dieu est qu'il se crée dans le monde une église vivante et une église stable. Dieu, dans sa vision, il a besoin dans ce monde d'une église vivante et d'une église stable. La question que je te pose cet après-midi, et la question que je peux tous nous poser est celle-ci. Est-ce que nous sommes déjà membres de l'Église ou nous sommes prêts à faire membres de cette Église? C'est la question que je vais te poser et que je peux nous poser tous ensemble. Tu peux peut-être la demander à celui qui est à côté de toi et lui dire, est-ce que tu es déjà membre de l'Église ou alors est-ce que tu es prêt à devenir membre de l'Église? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à commençant cet enseignement, nous avons dit la chose la plus précieuse pour Dieu dans ce monde, c'est son Église. La chose la plus précieuse pour Dieu, la chose qui réjouit le cœur de Dieu quand il regarde le monde, c'est son Église. Cette Église qui est la famille des enfants de Dieu, la famille de ceux-là qui ont choisi de rester fidèles et attachés à la volonté de Dieu jusqu'à leur mort. Et la question que je suis en train de te poser est de dire, est-ce que tu es déjà membre ou alors est-ce que tu es prêt à devenir membre? C'est difficile d'avoir les réponses de tout le monde à cette question. Mais nous avons dit deux grandes choses importantes le lundi et le mardi que je vais nous rappeler ici. La première chose que nous avons dit, si tu veux faire partie de cette famille précieuse de Dieu, cette famille qui s'appelle l'Église, nous avons dit la première chose, rassure-toi que tu connais la vraie identité de Jésus-Christ et que tu as déjà accepté qu'il est mort pour le salut de l'humanité. Ça, c'est la première chose que nous avons dit. Rassure-toi que tu connais la vraie identité de Jésus et que tu as accepté qu'il est mort pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. C'est la première chose et la chose de base. Si tu es en haut des discussions sur l'identité de Jésus, si l'œuvre salvatrice de Jésus, tu n'es pas encore de ceux-là qui forme la famille précieuse de Dieu sur la terre, et cette famille qui est l'Église. La deuxième chose que nous avons dit alors hier, le mardi, nous avons dit, rassure-toi que tu as abandonné ta vie en Jésus et que tu es en train de le suivre sur ta route. Rassure-toi que tu as abandonné ta vie entre les mains de Jésus. Je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible de reconnaître Dieu, il est possible de connaître l'identité de Jésus, de connaître qu'il est celui qui est mort pour que le monde soit sauvé, mais ça a donné sa vie à Jésus. Et c'est pour cela que nous avons dit que l'abandon de notre vie à Dieu, ou alors l'abandon de notre vie à Jésus-Christ, c'est le fait d'accepter d'être orienté par lui dans toutes les circonstances de notre vie et accepter d'examiner toutes choses que nous faisons sur base de la parole de Dieu. C'est ça, abandonner sa vie à Jésus. Il est possible que tu sois dans le monde. Lorsqu'on te demande qui est le sauveur du monde, tu connais que c'est Jésus. Il est possible d'être dans le monde. Lorsqu'on te demande qui est Jésus-Christ, tu dis c'est le Messie, le sauveur de l'humanité. Mais abandonner sa vie à Jésus-Christ, afin qu'il soit celui qui la dirige, c'est une autre dimension. C'est pour cela que vous trouverez qu'il y a des gens à l'église. Ils peuvent même servir, ils sont là depuis des années. Mais ce qui leur manque, c'est qu'ils n'ont jamais dit, « Dieu, je te donne ma vie et je prie que tu me domines. Je prie que tu me diriges dans toutes les circonstances de ma vie. » Ce sont des gens qui connaissent la vérité, mais qui choisissent de faire le mal, alors qu'ils connaissent la vérité. Pourquoi? Ils connaissent Jésus, ils connaissent Dieu, mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné leur vie à Dieu. Nous devons, selon la parole que nous avons lue hier, le texte que nous avons lu hier, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un aura honte de moi dans cette génération pécheresse, moi-même, j'aurai honte de lui devant mon Père. » Nous n'avons pas besoin d'avoir honte que les gens nous appellent des chrétiens. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de Christ qui est notre Sauveur. Nous avons plutôt besoin d'avoir honte de faire le mal. J'ai un enseignant qui nous a enseigné, qui a dit, les problèmes du monde aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas honte de faire le mal. On peut avoir honte de témoigner de son salut, mais on n'a pas honte de faire le mal. Alors lui nous disait que la honte a une dimension positive. C'est que la honte qui est entendue d'un enfant de Dieu, c'est la honte de faire le mal. C'est ce que Joseph André de vivre en Égypte. Et Joseph peut dire devant la femme de Potiphar, comment je peux faire une si grande chose, une si grande offense? Il est en train de regarder sa relation avec Dieu et il a honte de faire le mal. Aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de faire le mal. Ils n'ont pas honte de faire les choses qui ne contribuent pas à la gloire de Dieu. Pour nous abandonner à Jésus-Christ et abandonner notre vie à Jésus, dans le monde actuel et dans la génération pécheresse dont il est question, nous devons apprendre à faire attention. Je vais souligner ici à trois grandes choses. Apprendre à faire attention à trois grandes choses. La première chose, c'est l'argent. Aujourd'hui, les gens abandonnent la vérité, ils abandonnent Dieu à cause de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour gagner l'argent. Les gens sont prêts à tout. Alors les jeunes, quand on lui dit là on va gagner l'argent, il est prêt à tout pour gagner l'argent. L'argent, c'est un défi dans la communauté et dans le monde aujourd'hui. À telle sorte que nous devons faire attention parce que plusieurs ont abandonné la foi à cause de cet argent. Combien de jeunes filles ont perdu leur dignité parce qu'elles avaient besoin de l'argent. On leur a proposé de l'argent et ils sont partis. Deuxième chose devant laquelle nous devons faire attention, c'est le pouvoir. Les gens aiment tellement le pouvoir qu'ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Et ça, c'est un piège. Si nous ne sommes pas informés, si nous ne sommes pas sensibles à la volonté de Dieu, tu peux te retrouver à cause de chercher le pouvoir, tu te retrouves déjà en train de nier la foi et de nier la vérité parce que tu as besoin du pouvoir. Plusieurs ont abandonné leur foi parce qu'ils étaient tellement attachés au pouvoir qu'ils ne voulaient pas abandonner ce pouvoir. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à laisser certains souffrir parce qu'ils ont besoin du pouvoir. C'est un problème. Troisième chose qui est en train de ravager le monde aujourd'hui, c'est le sexe opposé. Les gens sont en train d'abandonner la vérité à cause de ça. Les jeunes filles qui se laissent abandonner entre les mains des jeunes garçons. Les jeunes garçons qui se laissent emporter par les jeunes filles. Et vous verrez le monde en train de se mêler de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su abandonner notre vie entre les mains de Dieu. Nous avons dit afin qu'il faut accepter de porter sa croix. Accepter de porter sa croix, c'est accepter de perdre votre... C'est accepter d'affronter les souffrances. Accepter de passer par des moments difficiles afin de garder votre dignité et votre fidélité à Dieu. Prendre sa croix, c'est accepter au nom de Christ d'affronter même les moments difficiles afin de rester fidèle à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par exemple accepter de perdre votre service au nom de la justice. Accepter que vous ne ferez pas l'injustice et tant mieux être refoulé au service pourvu que vous gardiez votre dignité et votre relation avec le Seigneur. Combien sont capables de faire ça? Parce qu'on te demande de corrompre, tu dis, si c'est vraiment la corruption, j'accepte que le service me soit pris pourvu que je continue à garder ma relation avec Dieu. Refusez les cadeaux même les plus attrayants parce que vous voulez vous rester attaché à Dieu. Combien de jeunes sœurs se sont laissées tromper par leur fiancé? On leur a dit, voilà, si tu ne me donnes pas, donc ça veut dire que notre relation ne continue pas. Et après, vous la trouverez en train de dire, bon, vraiment, je ne voulais pas le perdre. Mais Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui voudra et celui qui perdra sa vie à cause de lui et de l'évangile, il la sauvera. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il est bien et il est meilleur qu'à cause de ta relation avec le Seigneur, tu acceptes de perdre certaines faveurs. Pas parce que tu n'en as pas besoin, mais parce que tu as besoin beaucoup plus de t'attacher à Dieu. Et nous l'avons dit hier, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous reniez et que vous acceptez de renier même les choses qui vous seraient importantes en vue d'honorer le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui s'occupe de votre honneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui vous honore et qui vous permet de rester même pendant que les autres, parce que vous êtes le dernier, le Seigneur est celui qui peut vous élever parce qu'il est celui qui élève ceux-là qui se rendent humbles devant lui. Alors je me dis, est-ce que nous sommes déjà tous à ce niveau? Est-ce que tu as cette base déjà? La base de la reconnaissance de Dieu et de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et la base de l'abandon personnel à Dieu. Si tu as déjà ces bases, tu es une pierre précieuse devant le Seigneur. Et par toi, le Seigneur va édifier l'Église et par toi, le Seigneur va édifier même toute la communauté humaine parce que il va t'utiliser comme lumière au milieu de son peuple. Est-ce que tu es déjà à ce niveau? Alors cet après-midi, à continuer cette même philosophie, et dans la question de savoir si nous avons déjà cette base, cet après-midi, nous voulons traiter des thèmes encore importants qui dit la transformation interne des membres de l'Église. C'est la base de l'édification de l'Église. L'Église s'édifie par une transformation intérieure des membres. Les problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, ou alors les problèmes que nous avons dans nos communautés religieuses aujourd'hui, c'est qu'à certaines occasions, nous découvrons qu'il y a des hypocrites dans l'Église. Les gens qui sont venus dans l'Église, non parce qu'ils ont la base spirituelle, mais il y a certains qui sont nés à l'Église, et quand tu lui poses la question, il dit « ça, c'est la communauté de mes parents ». Moi, je suis toujours dans cette paroisse depuis l'école des dimanches, et donc je suis membre ici. Quelqu'un qui n'a pas une base. Quand je réfléchissais un peu sur cet enseignement, j'étais en train de me dire, si on pouvait dire aujourd'hui, bon, toutes les personnes qui ont déjà les deux bases dont nous avons parlé, les lundi et les mardi, tu connais que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Deuxième chose, tu reconnais que tu as déjà abandonné ta vie entre les mains du Seigneur. On devrait dire, on s'enregistre dans un cahier et on commence un nouveau départ. Et si on devait prendre une convention, on s'est dit, voilà, la liste de ceux-là qui vont s'inscrire, ce sont maintenant les membres de l'église de Gomaville, l'église locale de Gomaville. Pour que quelqu'un entre dans ce cahier, il faut qu'il nous confirme qu'il a déjà les deux bases là. Tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, et en plus, tu as déjà abandonné ta vie à Jésus. Ce sont ceux-là qui seraient membres de l'église. Mais le problème, c'est d'être dans l'église, c'est d'être dans la famille des enfants de Dieu, alors que vous n'êtes pas construit sur les fondements. Et c'est pour cela que dans nos communautés, nous avons beaucoup de problèmes, parce que certains sont venus, pas parce qu'ils ont été appelés par Dieu, mais parce qu'ils sont là, c'est leur église, d'autres c'est leur communauté, d'autres ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il est possible de voir quelqu'un dans l'église qui dit vraiment « je suis là parce que cette chorale, quand elle chante, je suis content de voir cette chorale chanter ». Des gens qui donnent des témoignages, qui montrent qu'ils sont là parce que tel est là, ils sont là parce qu'ils sont liés à certaines personnes qui sont là. Lorsque nous sommes dans des conditions comme ça, nous ne faisons pas encore membre de l'église. L'église est formée par des personnes qui sont transformées. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas transformés intérieurement, bien-aimés, les services que nous rendons à l'église, le temps que nous prenons pour aller écouter la parole de Dieu, aussi longtemps que nous ne nous laissons pas transformer par cette parole, nous perdons notre temps. Et ce sont ces gens pour qui la Bible dit, quand ils seront devant le Seigneur dira, je ne vous avais jamais connu. Je ne vous ai pas connu. Ils vont trouver des adresses pour dire, voilà, moi j'étais telle part, moi je pouvais faire ceci, mais le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Et récemment, je vous l'ai déjà dit que je crois que devant le Seigneur, on n'aura pas l'état de discuter avec Dieu. Quoique devant le Seigneur, on n'aura pas de débat. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer si vraiment tu es enfant de Dieu? Non, non. J'ai toujours pensé que Dieu n'a pas ses temps. Quand nous étions à l'école de dimanche, on nous enseignait qu'il y aura des vidéos au ciel. Donc, la vie de chacun va passer sur l'écran. Je me dis, est-ce que nous aurons tout le temps de voir la vie de chacun? Bon, je m'imagine qu'on n'a pas ce temps-là. Bon, Dieu seul connaît ce qu'il a prévu au ciel. Mais je crois qu'au ciel, on n'aura pas le temps d'expliquer combien de fois on a participé au séminaire de baptême, combien de fois on était choriste, combien de fois on était... Au ciel, je crois personnellement qu'il n'y aura pas le temps de ça. Mais parce que la Bible dit, le ciel, notre Dieu, est très saint, si bien qu'aucune chose impure ne peut s'approcher de lui. Et j'ai toujours pensé que lorsque nous serons au ciel, tous les impurs, ils vont directement passer par la voie des impurs et tous les saints vont s'approcher de Dieu. Mais Dieu seul sait comment ça va se faire. Mais je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que quand nous serons au ciel, nous aurons le temps de pouvoir argumenter sur comment nous avons été justifiés, sur comment on pouvait quand même tricher, c'était compliqué. Bien-aimé, tu es étudiant, tu es élève et tu continues à tricher. Au ciel, tu n'auras pas le temps de te justifier parce que tu seras seulement un impur. Dieu n'a pas le temps. Je crois que Dieu n'a pas le temps de discuter avec les impurs. Le seul moment que nous avons pour que notre vie soit agréable à Dieu, c'est le moment où nous avons encore ce temps d'écouter la parole et de nous asseoir pour écouter le Seigneur nous parler. La Bible dit, les messages vont passer, les prédications vont passer. La Bible dit même, à un certain moment, les gens vont chercher la parole. La vérité, ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce que le temps de la grâce sera déjà fini. Nous ne serons pas au ciel parce que nos parents ont été au ciel, non. Être au ciel, c'est une question personnelle. Et donc les bêtises que tu peux être en train de faire, même si tu es à l'église, ces bêtises vont te suivre jusqu'au ciel. Il y avait un enseignant qui nous disait que les gens qui ont avorté les enfants, et ils pensent qu'on ne connaît pas, vous allez rencontrer ces enfants au ciel. Alors il disait, quand vous allez y arriver, vous allez trouver vos bébés là-bas en train de vous attendre. Il dit, c'est lui, c'est elle qui m'avait avorté, qui m'avait fait avorter. Personne ne connaît, mais moi je connais. Je suis là, je suis en train de l'attendre. Ça, c'est quelqu'un qui nous disait ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la réalité, c'est que le temps que nous avons pour nous attacher à Dieu, c'est le temps que nous avons sur la terre. Et le problème de nos communautés aujourd'hui, ce qui laisse que nos communautés ne soient pas directement des églises. Ah là, je crois que je ne vais pas blesser personne. Quand je dis nos communautés ne sont pas directement des églises. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? La CBK, c'est une communauté religieuse. Mais ce qui fait que la CBK ne soit pas directement une église. Ah, quand je dis ça comme ça, je prie que les gens me comprennent. La définition de l'église ici, c'est la famille des enfants de Dieu. Et quand il y a déjà une personne qui n'est pas enfant de Dieu parmi les enfants de Dieu, ça, ce n'est plus la famille des enfants de Dieu. C'est déjà un mélange des enfants de Dieu et d'autres choses. Alors, ce qui fait que notre communauté ne devienne pas directement l'église, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont à l'intérieur, pas parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais seulement parce qu'ils ont été recrutés. Aujourd'hui, il y a même des recrutements à l'église. Les choristes. Quelquefois, on recrute quelqu'un qui sait jouer le piano. Recrutement, il n'y a même pas de critères de salut, non, non. Ah, vraiment, ces garçons, quand ils jouent au piano, c'est bien. Il faut qu'ils soient dans notre chorale. Il suffit qu'il ait un comportement éthiquement acceptable. Alors on dit, oui, oui, celui-là vraiment, il est de notre celui-là, on n'a pas à discuter. C'est ça qui fait que notre communauté ne devienne pas une église. Dans le vrai sens du mot ecclésia. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont nés là-bas. Tu lui poses, comment tu es devenu chrétien? Il te dit, frère, nous avons été nés ici. Mon père était un ancien de l'église et tout le monde le connaît. Est-ce que c'est toi qui ne connais pas tel? Il explique et tu te rends compte qu'en réalité, celui-ci, il est là parce que son père était un ancien de l'église ici. Mais vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas des anciens de l'église. Il y a des gens dans notre communauté qui sont là et tu les trouves dans une paroisse.
Il est là seulement parce qu'il est attaché à certaines personnes à l'intérieur. Il dit, bon, moi vraiment, ma présence ici, c'est que quand je vois toujours tel faire ceci ici, je suis content, ça me réjouit et ça, ça m'a motivé à venir ici. Les candidats au baptême, est-ce que vous êtes là? Les candidats au baptême, alléluia. Ah, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Je sais que vous n'êtes pas de cette calibre ici, mais il y a même certains, il finit, dit, je vais me faire baptiser. Quand tu lui poses la question, pourquoi tu veux te faire baptiser? Il dit, vraiment pasteur, tu vois que nous sommes en train de grandir et les jours avancent. Les jours avancent, mais est-ce qu'avant ça n'avançait pas? Les jours avançaient toujours. Et ça, ça suffit pour que quelqu'un se fasse baptiser. Le problème, ça c'est très très vrai. Demandez aux évangélistes de cette paroisse ou ailleurs. Le problème que nous avons dans l'église, je ne sais pas si on peut estimer à combien de pourcents, les gens qui sont dans l'église et qui ont un témoignage de salut personnel. Je ne vais pas vous la poser, mais je risque de vous la poser. La question de dire... Est-ce que tu es sûr que si Dieu venait nous trouver à Gomaville maintenant, tu es entré au ciel? Je vous posais cette question-là. Bon, je ne vais pas vous la poser, mais je risque de la poser. Vous allez trouver quelqu'un qui commence à dire, bon, est-ce qu'on peut vraiment être sûr? Est-ce qu'on peut vraiment? Ou si dans gagne mungu, na kutana mtu natashi mpemina, ou si dans gagne mungu, frère, c'est quoi ici dans gagne mungu? Chacun est sûr de lui-même parce que le Saint-Esprit témoigne à nous que nous sommes des affaires de Dieu. Il y a encore des gens ici qui croient que... est-ce que tout le monde est à quoi très sûr? Et je vais te dire, si tu es encore dans cette dimension-là, tu as besoin d'être aidé. Une deuxième question que je peux poser à quelqu'un. Est-ce que alors, s'il arrive que le Seigneur t'appelle aujourd'hui, tu arrives devant la porte du ciel et il te dit, frère, sœur, pourquoi je peux te faire entrer dans mon royaume? Si on pose cette question ici, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on devrait prendre deux à deux, vous posez ça à l'autre. Vous allez trouver des explications, frère. Moi, depuis que je suis là, je donne toujours ma dîme, je donne toujours mes offrandes. Ce n'est pas les offrandes qui vont nous amener au ciel. Ce n'est pas parce que nous avons été ponctuels au culte que nous serons au ciel. C'est parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Et il y a beaucoup déjà dans notre communauté, je ne sais pas s'il y a combien de pourcents. C'est parce qu'au ciel, on n'aura pas le temps. Mais si on arrivait au ciel, on dit, tous les gens qui étaient dans la CBK venaient nous retrouver ici. La CBK aujourd'hui compte environ 48 000 personnes. 480 000 personnes, voilà. 480 000 personnes. Je ne sais pas si le Seigneur venait maintenant. Réunion, il y a un peu de CBK, il y a un peu. Je ne sais pas si les 480 peuvent y arriver. Et je ne sais pas aussi si maintenant, toi qui es ici, tu peux y arriver. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que pour devenir membre de l'Église et pour que l'Église puisse s'édifier dans le monde aujourd'hui, elle a besoin de personnes qui sont transformées intérieurement. Chorale et les autres services, au moins vous chantez bizarrement, mais avec des gens qui ont reçu Jésus, que de chanter de manière agréable avec des gens que vous avez ramassés sur la rue. Oui, aujourd'hui, les gens font des recrutements, c'est comme les équipes de football. Mon cher, tout le monde est bien, bonjour, vous, tout le monde, quand les garçons n'ont donné, où les garçons font tout le monde. Mon tamon, mon ajout, il n'y a pas salut si vous gagnez. Et c'est ça le problème que nous avons dans l'église. Alors, le chapitre 7 de Matthieu que nous avons lu, c'est un chapitre dans lequel Jésus est en train de dire « Attention à l'hypocrisie. Chacun de nous doit se retirer de la position qu'il occupe. » Et c'est le message sur lequel je vais conclure notre réflexion de cet après-midi. Être à l'église et ne jamais être transformé, c'est une hypocrisie. Et attention à cette hypocrisie. Tous les chapitres de Matthieu, chapitre 7. Quand vous lisez les versets premiers jusqu'au verset 5, Jésus est en train de dire ceci, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, regardez d'abord ce qu'il y a d'abord dans ton œil. Aujourd'hui à l'église, il y a des fois que
Quand nous suivons des messages, on dit, aïe, 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 aïe. Je disais à Philémon d'être ici. Comment il n'est pas là? Il message Maraniaque, où il n'y est et tout.
Jésus dit, attention, ça permet à certaines personnes de ne pas évoluer. C'est comme les pharisiens qui pouvaient regarder quand ils se voient, ils disent, oui, moi je suis déjà bien. Et les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Jésus dit, attention,
la chose ici est personnelle. Avant de regarder l'autre, regarde d'abord ta position.
Et c'est ça ce que je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Tu n'as pas intérêt à regarder l'autre si tu veux être de ceux-là qui vont faire l'église de Dieu. Tu vas d'abord regarder toi-même personnellement. Est-ce que je suis déjà attaché à Christ? Est-ce que je suis déjà transformé intérieurement?
C'est d'abord une question personnelle. Deuxième chose, au verset 6.
Jésus montre qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne devons pas jouer. Et moi, j'ai dit, ne jouez pas avec l'important de votre vie. Sachez que la valeur de ce que vous êtes, sachez la valeur de ce que vous êtes. Et ne vous mêlez pas de ce qui n'est pas de votre identité.
Jésus, dans le chapitre 7 de Matthieu, j'aime la manière dont l'auteur de Matthieu a constitué tel que le texte se suit. Il dit la première chose, avant de regarder les autres, regarde toi-même.
Tu peux penser que les autres sont malades alors que c'est toi qui es plus malade qu'eux.
Tu vois la paille dans l'œil d'autrui, mais pourtant chez toi, il peut y avoir une poutre.
Et il est en train de dire, faites ça. Et c'est quelque chose qui nous appelle à dire, la transformation doit commencer par moi, elle ne commencera pas par les autres. Et le verset 6, il dit, attention, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. On ne peut pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Des jeunes garçons qui se laissent aujourd'hui déshabiller devant les soeurs. Tu ne peux pas exposer ton corps, créature de Dieu, aimé de Dieu. Tu l'exposes à n'importe qui. La valeur que tu as, tu ne peux pas la laisser offrir à n'importe qui. Le diable, lui, sollicite cette valeur-là pour qu'il puisse l'avoir. Le verset 7 jusqu'à 11. Quand vous lisez le verset 7 jusqu'à 11, c'est là où il a dit de prier. Et moi, en lisant ce verset, je dis, Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles à ses enfants. C'est-à-dire même Dieu, en nous regardant, il connaît notre identité et il reste fidèle à ceux qui lui sont fidèles.
Les problèmes sur lesquels je suis ici maintenant, c'est le problème des hypocrites et des personnes qui s'assimilent aux affaires de Dieu, assimilés aux affaires de Dieu alors qu'ils ne sont pas des affaires de Dieu.
Même si tu t'assimiles aux affaires de Dieu alors que tu n'es pas un affaire de Dieu,
Dieu ne te connaît pas dans son royaume. Parce qu'il n'écoute que ceux qui lui sont fidèles. Le verset 12.
Jésus dit à ses disciples, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. » Autrement dit, la transformation ne va pas commencer par les autres, elle va commencer d'abord par vous-même.
Le verset 13 jusqu'à 14.
Le texte dit, la Bible dit, il y a des voies, il y a des portes, il y a la porte large et la porte étroite. Il y a donc la vie et il y a la mort. Et dans la vie, vous ne serez jamais sur les deux portes à la fois. Soit vous êtes sur la porte étroite, soit vous êtes sur la grande porte.
Ce que je vise ici, c'est que chacun dise, je suis où dans tout ça?
Parce que ce que nous vivons dans l'église aujourd'hui, les gens sont souples à adorer le Seigneur. Mais les mêmes personnes, la soirée, ils sont dans des petites maisonnettes en train de boire, ils sont dans des chambres d'hôtel en train de faire ce qui ne convient pas.
Et Dieu dit à travers les livres des Corinthiens,
vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
C'est pour cela que l'Église, c'est pour cela que nos communautés aujourd'hui ne sont pas transformées.
Qui a déjà donné sa vie à Jésus?
Tout le monde lève la main.
Mais en réalité, il y a des gens qui savent dans leur cœur qu'ils ne sont jamais transformé.
Jésus dit, regardez ce que vous êtes. Le verset 13 jusqu'à 14 dit, il y a deux portes, il y a deux voies. Il y a la voie étroite et il y a la voie large. Soit vous êtes dans la voie étroite, soit vous êtes dans la voie large. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Alors quand on arrive au verset 15 jusqu'à 20, le texte dit, on reconnaît chaque arbre par quoi? On reconnaît chaque arbre par ses fruits. Même si vous vous cachez, peut-être que les fruits ne sont pas encore là, mais les fruits viendront. Même si vous vous cachez, mais on vous reconnaîtra par vos fruits. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que tu peux te cacher dans l'église, tu fais semblant comme si tu es déjà attaché à Christ. Tu fais semblant comme si tu appartiens déjà à Christ et tu es déjà transformé. Le moment vient, lorsque la saison va arriver, tu vas produire des fruits. Et tu vas te rendre compte que, parce que chaque arbre a sa saison. Et il y a quelqu'un qui avait l'habitude de dire que le diable lui aussi a son baptême. Nous les chrétiens, quand nous baptisons, nous disons, il y a des gens qui veulent témoigner de leur foi à Jésus. Il y a aussi les moments où le diable lui-même aussi présente ses gens aux gens. Et les gens disent, c'est ce qu'était le frère ici. Parce que les fruits sont déjà là. Alors c'est ça le problème de l'hypocrisie dans l'église. C'est qu'à un certain moment, lorsque votre saison va arriver, vous allez produire des fruits. Pourtant, on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Donc si tu n'as pas encore produit les fruits, c'est que tu attends la saison, ça viendra, tu vas produire des fruits. Et les gens vont dire, voilà, on les reconnaît maintenant. Alors le verset 21 et le verset 23. Jésus dit ceci à ses disciples. Il ne suffit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur, sans faire ce que je vous dis, mais il faut faire la volonté de mon Père pour être mon disciple. Ici, maintenant, il est en train de construire l'identité du disciple. Le disciple n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Moi, je prends le Seigneur, Seigneur là comme la présence au culte. Tu es présent, toujours présent au culte. Toujours présent au service de l'Église. Jésus dit ça, ça ne suffit pas. Ce qui est important dans la vie, c'est que tu sois en mesure de faire la volonté de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont dans le Seigneur, 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 Seigneur. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça ce qui importe. Alors le verset que nous avons lu, le verset 24 jusqu'au verset 27. Jésus dit ceci, rassurez-vous que vous avez construit sur les rocs. Rassurez-vous que vous avez construit sur les rocs parce qu'il y a deux constructions. Et il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, il est comme un homme qui a construit sur les rocs et quand la pluie, les vents et les torrents sont venus, cette maison n'est pas tombée. Alors que celui qui écoute la parole de Dieu et il ne les met pas en pratique, il est comme celui qui a construit sur les sables, les pluies sont venues. Les torrents sont venus et le vent. Et quand ils se sont cognés sur la maison s'est écroulée et cette ruine a été très grande. Quelques vérités pour finir à travers ce texte ici. La première vérité sur laquelle j'attire votre attention dans ce texte. Les deux personnes ont construit. Alléluia. Les deux personnes ont construit. Et moi, j'ai dit, cette construction signifie ce qui est visible. C'est-à-dire, on pouvait passer, on dit, voilà, messieurs, tel a construit ici et l'autre a construit. C'était possible de voir les deux constructions. Peut-être que même les deux constructions pouvaient se ressembler. Les deux constructions pouvaient même être tout agréables. Les deux personnes ont construit. La deuxième chose. Bien que les constructions pouvaient se ressembler, bien qu'on pouvait regarder la maison de l'autre et de l'autre, on trouvait que voilà, il y a déjà les deux maisons qui sont construites ici.
La fondation, c'est l'essentiel de la maison. Malheureusement, cette fondation-là, c'est une chose invisible. Mais c'est la chose qui supporte la maison et qui permet de savoir si la maison est bien construite ou si elle n'est pas bien construite. Je vais vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que ce qui donne votre valeur, ce n'est pas ce que vous faites extérieurement. Ce n'est pas votre aspect extérieur, c'est votre aspect intérieur. C'est votre nature intérieure qui ne peut pas être visible à l'œil ni qui compte. Et c'est pour cela que je dis, je crois la fois passée que j'ai dit ici que celui qui va dire que vous êtes chrétien, ce n'est pas celui qui est à côté de vous d'abord. C'est d'abord vous-même qui êtes le premier témoin de votre salut. Parce que celui qui est à l'intérieur de vous, c'est celui qui témoigne d'abord. La fondation d'une maison est toujours cachée. La fondation d'une maison est toujours cachée. Et tu dois te poser la question de dire, quelles sont les choses qui sont cachées à moi? Les choses que je ne dis pas aux gens ouvertement. Les choses que je ne communique pas aux gens ouvertement. Quelle est la nature de ces choses-là? Les deux personnes ont construit leur maison, mais la fondation ne pouvait pas être visible. Aux yeux de ceux qui passaient, il y avait déjà deux maisons construites. Et c'est ça. Tu peux être à l'église, aux yeux de tout le monde, tu es chrétien parce que tu vas à l'église. Mais est-ce que l'intérieur témoigne de ce que tu es en train de faire? La troisième chose dans ce texte ici, les pluies, les torrents et les vents sont venus. Et malheureusement, les pluies, les torrents et les vents n'ont pas choisi la maison qui était bien construite pour laisser la maison qui n'était pas bien construite. La réalité, c'est que les torrents dont il est question ici, les pluies et les vents dont il est question, ce sont les moments de turbulence, les moments dans lesquels nous passons par les angoisses, les moments dans lesquels nous passons par des choses qui nous font désespérer. Si tu es dans l'église et tu as construit sur le sable, ne pense pas que lorsque le monde va être bousculé, tu vas rester. Toi-même et les autres vont passer par ces moments-là. Qu'est-ce qui arrive pendant que ces moments ici arrivent dans la vie? On reconnaît la maison qui est bien construite par la résistance face aux menaces de l'extérieur. La Bible dit la maison qui était bien construite, elle n'est pas tombée, alors que la maison qui était mal construite, elle a été ruinée et sa ruine a été grande. Tu es encore en train de te maintenir à l'église, parmi les enfants de Dieu, parce que tu es encore dans la bonne saison. Mais je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que les moments que nous vivons et pendant que nous attendons le Seigneur, nous devons nous rendre compte que il y a le moment où, si tu n'as pas construit sur Jésus-Christ lui-même, tu ne sauras pas avancer. Il y a le moment où, si tu n'as pas construit sur Christ lui-même, tu vas être dévoilé devant tout le monde. Parce que tu as construit sur le sable. Parce que tu as construit sur un fondement qui n'est pas réel. Et nous devons en être conscients, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église s'est construite sur des personnes qui sont transformées intérieurement. Quelle que soit ta nature et ce que tu fais à l'Église, aussi longtemps que tu n'es pas construit sur le fondement de la parole de Dieu, même si aujourd'hui tu te maintiens parmi les enfants de Dieu, tu as un comportement éthiquement acceptable. Et quand les gens te voient, ils disent, oui, c'est beau garçon, c'est beau petit, c'est bon enfant, c'est beau. Ils disent oui. Mais si tu connais à l'intérieur de ta vie que tu n'es pas construit sur le roc qui est l'obéissance à la parole de Dieu, ta ruine est en train de venir. Ta ruine est en train de venir. Et la Bible dit, lorsque cette ruine arrive, elle est plus grande. Pourquoi? Parce que tu as donné l'impression d'appartenir à Dieu, mais en réalité, tu n'appartiens pas à Dieu. Si à l'intérieur, nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas construire l'église. C'est pour cela que vous verrez que dans l'église, en même temps qu'on est dans l'église, mais il y a des choses qui se passent et on se dit, vraiment, est-ce que nous sommes attendus face à ce que Dieu est en train de vouloir nous dire? Il y a tout le monde à l'église, il y a des voleurs, il y a tout. Je me rappelle un moment, dans un culte, dans un temple ici à Goma, je ne vais pas dire le nom de ces lieux-là, une maman est en train de prier. Elle met son téléphone sur la chaise. En ouvrant les yeux, le téléphone n'est plus là. À l'église. Ils ont commencé la prière ensemble. Ils ont commencé à prier ensemble, mais quelqu'un est capable d'ouvrir les yeux et de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a un téléphone à côté, le prendre et partir. Alors qu'ils sont tous des frères et des sœurs à l'église. Si nous ne sommes pas transformés et disposés à la transformation intérieure, notre vie, quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit ce que nous pouvons rendre comme service, notre vie est conduite toujours, toujours vers la ruine. Nous allons ruiner. Jésus dit à travers ce texte de Matthieu, chapitre 7, chacun de nous doit s'identifier et savoir sur quelle base il a construit. Tu as construit sur quelle base? Est-ce que tu es sur le vrai fondement ou tu es encore sur les fondements éphémères, un fondement de ce que les gens disent? Et fondement de ce que, bon, je suis là parce que je dois être là. Je suis là parce que les autres sont là. Si tu es sur ces fondements-là, tu as besoin d'être aidé. L'église qui va partir avec le Seigneur et l'ensemble des personnes qui ont construit sur l'obéissance à la parole de Dieu, ce sont des personnes qui examinent chaque chose sur base de la parole de Dieu. Je suis en train de faire ceci. Est-ce que ceci est appuyé par la parole de Dieu? Aussi longtemps que nous menons notre vie en dehors de ces réalités-là, nous perdons notre temps. Et quelle que soit notre présence et notre service à l'église, nous perdons notre temps. Nous allons prendre ce moment pour prier. Et le texte de ce jour, je voudrais qu'il soit une interpellation personnelle pour toi. La question que je te pose, ou alors le moment ici, je vais te dire de rentrer dans ta propre conscience. Est-ce que tu es à l'église parce que tu as crié? Tu es ici parce que tu es fondé sur les beaux fondements, les rocs? Ou alors tu es là parce que bon, tu es là d'abord pour y être. Je voudrais que tu reviennes dans ta propre conscience et que tu sois à mesure d'examiner ta vie. Le texte de Matthieu chapitre 7, c'est un texte qui nous révèle que chacun doit s'identifier personnellement. Ce n'est pas le temps de regarder quelqu'un et dire, bon voilà, je connais, on ne se justifie pas devant le Seigneur. C'est clair, il y a des chemins. Soit tu es dans la voie étroite, soit tu es dans la voie large. Et même si tu te caches, on reconnaît un fruit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Les gens te connaîtront par tes fruits. Et même si tu es encore caché maintenant, attends, les tempêtes vont venir. Les vents vont souffler, les pluies vont être là. Et quand ces pluies vont arriver, tu ne sauras pas résister parce que tu n'as pas de fondement. Bien-aimé, si tu vois que tu n'as pas de fondement, il est temps de construire pendant qu'il est encore un beau temps. Si les propriétaires de la maison pouvaient savoir que la maison allait s'écrouler pendant les moments de pluie et qu'il allait être ondeux, ils pourraient apprendre à refaire sa maison avant que la pluie ne vienne. Et la réalité, c'est que maintenant, si tu es dans un beau temps, tu dois te rendre compte qu'il y a le moment où la pluie va venir. Et quand cette pluie va arriver, bien-aimé dans le Seigneur, il sera tard, il sera trop tard pour toi de reconstruire. Quelqu'un chantait, il a dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux balayer ta vie passée et recommencer à zéro. Si l'église aujourd'hui pouvait recommencer à zéro, si Gomaville aujourd'hui pouvait recommencer à zéro, nous mettons un registre d'identité à la porte et nous disons, si tu as déjà reçu Jésus-Christ, tu es sûr que tu es sauvé, tu peux entrer parce que tu es membre de l'église. Et tous les autres, restez dehors, nous ne commençons pas l'évangélisation. Vous ne serez à l'intérieur que lorsque vous serez déjà évangélisé et transformé. Là, on construirait une église forte, une église où il n'y a pas d'hypocrite, une église où il n'y a pas de n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui sont transformés. Est-ce que tu es de ceux-là qui appartiennent à Dieu? Le texte de ce matin nous interpelle en disant que même si tu peux faire semblant, attends le moment où André de venir. Et le moment-là peut venir le soir ici, le moment-là peut venir maintenant. Et quand la pluie va arriver, les torrents vont venir, tu ne sauras pas supporter, tu vas tomber. Tu vas tomber, pourquoi? Parce que tu n'es pas construit sur le roc. L'obéissance absolue à la parole de Dieu, l'attachement ferme à Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger.
La parole de Dieu nous a dit, celui qui aura honte de moi au milieu de cette génération, j'aurai honte de lui devant mon Père. Tant mieux que les gens se moquent de toi, que les gens te regardent pendant ce moment, au lieu que les gens te voient en train de ruiner à un certain moment. Au lieu que les gens te voient en train de ruiner à une occasion qui vient et que personne ne connaît. Au moins que tu acceptes de reconstruire maintenant et de dire, Seigneur, je veux repartir à zéro. Il y a des choses que je dois balayer dans mon passé. Des choses qui ne doivent plus faire partie de mon identité. Des choses qui doivent être oubliées chez moi. Si bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu, tu trouves qu'il y a des choses que tu dois balayer dans ton passé, des choses que tu dois oublier, des choses qui ne doivent plus faire partie de ton identité. Au lieu d'être honteux quand tu vas tomber, au moins que tu décides maintenant de recommencer. Si tu peux être là, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne donne pas sa parole au hasard, il te connaît. Il connaît pourquoi. Et ton esprit, déjà ta conscience en train de dire, c'est toi aussi, tu n'as pas une bonne position. Tu ne tiens pas debout. Il suffit que la pluie, les torrents et les vents viennent. Ce sont des choses spirituelles. Si ces choses arrivent, tu ne sauras pas résister. Si tu es sûr que tu ne peux pas résister et que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu vas te mettre debout. Nous allons prier avec toi. Parce que si nous demandons à Dieu maintenant d'envoyer ces torrents, ces pluies et ces vents, est-ce que tu es sûr que tu peux résister? Est-ce que tu es sûr que tu peux résister? C'est mieux de demander la grâce de Dieu maintenant que de la demander après. Ce n'est pas lié à ton service. Hein, quand je vais me mettre debout, les gens diront quoi? Ce n'est pas question de ce que les gens diront. C'est plutôt question d'une constriction personnelle. Tu cherches ton bonheur personnel. Tu n'as pas besoin des autres. Dans la marche avec Dieu, nous ne serons pas au ciel pour justifier que j'étais avec lui. Non, c'est une marche personnelle avec Dieu. Et donc, ne regarde pas. Tu dis, bon, vraiment, qu'est-ce que les gens diront? Non, c'est une constriction personnelle. Tu peux te mettre debout, nous allons prier. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, tu peux te mettre debout, nous allons prier. Avant que je ne passe à la deuxième question, si tu es là, tu peux te mettre debout. Tu crois que tu as besoin de la grâce de Dieu? Parce que tu te rends compte que si ces torrents venaient, si ces pluies dont il est question ici, je ne sais pas si je vais rester debout. Tu peux te mettre debout, nous prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui? Je vais penser à une deuxième question. Je vais passer à une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci beaucoup, mon frère. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mon frère, tu peux venir ici devant. Viens ici devant. Quand tu as la grâce de Dieu, il faut la profiter au maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut et qui dit, Seigneur, je crois que j'ai besoin moi-même de me rassurer que je tiens debout. J'ai besoin de me rassurer que je suis debout dans ma foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La deuxième question que je vais te poser, si tu es sûr que les torrents dont il est question, nous n'avons pas pris le temps de détailler les torrents ici, les vagues, les pluies et les vents. Si tu es sûr que si ces torrents arrivent maintenant parmi les maisons qui sont bien construites, la fondation qui ne bougera pas, la maison qui ne tombera pas, je suis là, je ne peux pas tomber parce que je suis construit sur les rocs. Tu vas te mettre debout, nous allons remercier le Seigneur avec toi. Tu sais que vraiment, même si ça venait maintenant là, je suis parmi les gens qui seront debout. Je suis parmi les maisons qui ne peuvent pas tomber parce qu'ils sont construits sur le roc. Dans ta conscience personnelle avec Dieu, tu es sûr de cette vérité et le Saint-Esprit le témoigne dans ton cœur. Tu vas te mettre debout, nous allons prier et remercier le Seigneur. Ne te lève pas parce que quelqu'un s'est levé, mais c'est ta conscience qui te dit, oui, je crois. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Le Seigneur est témoin de notre vie. Le Seigneur est celui qui connaît notre vie plus que nous-mêmes. Il est celui qui connaît même les choses que nous ne disons à personne, même les choses qui restent cachées dans nos cœurs, il est celui qui les connaît. Nous voulons remercier le Seigneur qui t'a donné cette grâce d'être sûr que si la pluie arrive, tu vas aussi rester debout parce que tu es construit sur les vrais fondements. Nous allons prier parmi les personnes assises. Si tu sens que tu as besoin d'être soutenu dans la prière, toi-même tu n'étais pas mis debout parce qu'il y a un problème, il y a un souci. Tu vas t'avancer devant et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin aussi d'être soutenu par toi. C'est une grâce que nous avons de la part de Dieu. C'est une grâce. Cette soirée, cette semaine que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée afin que nous puissions construire une nouvelle identité. Tu es sûr qu'il y a un petit souci, il y a un petit souci, elle est petite, c'est un petit souci. Mais j'ai besoin de la grâce de Dieu pour que moi-même je sois très sûr. Tu peux t'avancer devant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce qu'il t'a plu que ce soir, tu puisses nous communiquer ta volonté. Il t'a plu que ce soir, nous puissions être là. Tu dis, Seigneur Dieu, c'est une grâce que nous avons encore d'être de ceux-là qui peuvent écouter ta parole et marcher selon cette parole-là. Seigneur, tu nous rappelles cette soirée que ce qui est important dans notre vie, ce n'est pas ce que nous paraissons de l'extérieur, c'est ce que nous sommes intérieurement. C'est notre identité intérieure qui compte, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu nous appelles à être des personnes qui obéissent fidèlement à ta parole. Et c'est ça qui fait de nous des personnes qui ont construit sur les rocs. Nous sommes en train de nous approcher de toi, Seigneur, pour te dire merci, merci pour la grâce de la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour ce bien-aimé, ses parents, ses jeunes garçons, ses jeunes filles qui peuvent être conscients et qui peuvent avoir le Saint-Esprit en eux qui leur témoigne réellement qu'ils sont tes enfants. Que tu sois loué, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Je suis en train de prier pour mon frère qui est ici debout devant toi. Il a besoin de ta grâce. Seigneur, il a reconnu qu'il a besoin d'être soutenu afin que lui-même se rassure qu'il a construit sur le vrai fondement. Je prie au Père que toi qui acceptes de changer de vie, toi qui acceptes de donner une nouvelle vie à tes enfants, que tu exauces sa prière, que tu l'écoutes dans sa prière et que tu agisses favorablement pour lui au nom de Jésus. C'est bien-aimé qui est aussi. Si vraiment il y a une chose qui ne va pas bien dans sa vie, si vraiment il y a une chose qui l'accuse à l'intérieur, mais c'est difficile, Seigneur Dieu. Tu connais chacun, tu connais la situation de chacun, ô Éternel Dieu. Notre prière, c'est que
tu rencontres chacun dans sa situation et que tu acceptes de lui parler davantage afin qu'il comprenne qu'il a besoin de ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu sois celui qui te manifeste dans cette communauté. Que tu nous permettes d'être des personnes qui ont bâti sur les rocs afin qu'à travers nous, ta lumière luise dans le monde. Et que, Seigneur, nous soyons réellement appelés des membres de ton Église. Pas parce que nous sommes ponctuels au service, pas parce que nous sommes prêts à te servir de telle ou de l'autre, ou de telle autre manière, mais parce que nous avons été transformés intérieurement. Soutiens-nous, Seigneur, marche avec nous et bénis chacun de nous. C'est là qu'il t'a adressé sa prière, Seigneur, exauce-lui et permet que ta grâce se manifeste en abondance dans la vie de tout et chacun. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amen. Pouvoir acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, merci. Merci, que le Seigneur te bénisse, frère.